Europe 1, bien fait pour vous, Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1. Alors je serai avec vous jusqu'à midi. Et même si mon acolyte Julia Vignali a dû s'absenter juste pour aujourd'hui, rassurez-vous, elle sera à mes côtés demain. Alors ce matin, je serai tout de même bien accompagnée puisqu'à 11h45, les bienfaiteurs d'Europe 1 me rejoindront. Cécile Coumeau d'abord viendra nous parler d'une activité qu'elle a testée et qui permet à la fois de se cultiver, de profiter de la nature et de mettre nos papilles en éveil. Elle a participé à un atelier d'initiation à l'apiculture. Elle va nous raconter son expérience. Et puis, deuxième bienfaiteur, notre chroniqueur voyage, Gavin Clémenté Ruiz. Alors avec lui, on va s'envoler tout à l'heure direction l'Allemagne pour une escapade dans la charmante ville de Hambourg. Tous les détails et ses conseils touristiques, ce sera dans trois quarts d'heure. Alors avant tout ça, dans notre dossier du jour ce matin, moi je vous propose un autre type d'initiation. Depuis quelques années, on parle beaucoup des alternatives à la médecine moderne comme la médecine chinoise par exemple, mais connaissez-vous la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, cette médecine qui met l'accent sur l'équilibre du corps et de l'esprit pour favoriser la santé et le bien-être. On va vous expliquer ses grands principes et surtout comment peut-être en user pour vous faire du bien au quotidien. Pour commencer, en tout cas, comme chaque jour, on va se faire du bien en écoutant le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément Lanoux,
oh là là,
j'allais vous dire l'Ayurveda, ça vous parle?
L'Ayurveda me parle énormément, c'est dur à prononcer, mais je vais y arriver à merveille. Qu'est-ce que l'Ayurveda? Je me suis renseigné, on m'a dit mais c'est des techniques de bien-être, tu vas voir, c'est un peu la petite sœur du yoga. Donc si l'Ayurveda est la petite sœur du yoga, j'ai un message pour son frère, hein, qu'il arrête de ses bêtises vraiment, parce que j'en peux plus des dérivés du yoga. On a eu beaucoup d'invités ici, j'adore le yoga, et puis on nous a fait découvrir le yoga dans le noir, le yoga du chat, le yoga bière, le yoga paddle, le yoga bikram, tout ça existe vraiment. Il y a plus de yoga que de Martine, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine fait une émission sur Europe 1, Martine manifeste contre la retraite à 64 ans. Alors l'Ayurveda, c'est quoi? Sachez que c'est une technique qui repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. Ça offre de nombreux bienfaits comme la réduction du stress, l'élimination des toxines, l'amélioration de la circulation.
Vous avez enquêté un petit peu quand même.
Ma sœur a habité en Inde et elle est prof de yoga. Voilà, oui, elle a pris une petite année sabbatique. Et donc, j'ai quand même participé d'ailleurs à quelques séances avec elle de méditation ayurvédique pour déstresser. Alors moi, ça m'a stressé. Je vous cache pas que ça m'a stressé parce que j'aurais adoré le faire en Inde, sauf que je l'ai fait en Vendée. Et ce qui m'a stressé déjà, c'est que bon, les gars avaient un seul mot indien, c'était namasté. Namasté, namasté. Et namasté, c'est un mot qui fait du bien, qui relaxe, sauf quand le prénom est 100% français derrière. Hein, namasté Jean-Paul, il n'y a pas de crédibilité. Ça se terminait toujours par namasté Catherine, namasté à toi Jean-Paul.
Namasté
et donc
Clément.
Là, tu perdais un petit peu en crédibilité, mais je me suis dit, je vais quand même aller voir parce qu'il y a des pouvoirs incroyables. On m'a dit, mais tu n'imagines pas les pouvoirs. Et ils ont été malins parce qu'ils m'ont vendu d'abord le Vajikarana. Vajikarana, c'est quoi? Ils m'ont dit c'est l'utilisation un peu aphrodisiaque en fait. Ça va te donner une puissance sexuelle
ça
incroyable.
Vous a intéressé,
ça m'a intéressé, sauf que l'émission d'hier sur Europe 1, c'était quoi? C'était l'abstinence. Donc à un moment, il faut choisir. Moi, je suis là tous les jours,
je ne sais plus.
Et je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On m'a dit il y a plein d'autres choses. Alors je prononce peut-être très mal, mais le kaya. Chikista, en fait c'est de la médecine interne, c'est vraiment de la médecine, ça peut soigner aussi les maux de tête, les maux de cou, on peut faire de la chirurgie grâce à ça, on peut même, et on me l'a dit, alors ça c'est le Agada Tantra, c'est ça? Ça peut traiter contre
notre invité
les...
acquiesce,
ça peut traiter contre les empoisonnements. On m'a dit ça, c'est génial. Je lui ai dit, mais je me fais quand même très peu empoisonner dans mon métier. Moi, je fais des chroniques sur Europe 1. Je sais que j'ai un humour qui dérange, mais de là à ce que je crois que les espions russes en ont rien à foutre de mes chroniques. Je pense même pas une fois qu'ils m'aient écouté, même pas secrètement, même en mettant Europe 1 à la voiture en se disant, tiens, ce gars est sympa, même pas. Et puis, donc là, j'étais conquis quand même. Je me suis dit, c'est quand même pas mal, jusqu'à ce qu'on m'explique ce qu'était le Rasayana. Rasayana, on m'a dit, c'est le fait de rajeunir grâce à ça. Et là, je vous avoue que j'ai eu un petit doute parce que je me suis dit, si vraiment tu veux rajeunir, c'est pas ça qu'il te faut. C'est déjà, change de prénom, Jean-Paul. Parce qu'un Jean-Paul de moins de 40 ans, ça n'existe pas. Donc, je vais donner 2-3. Donc, si vous voulez, j'en suis à un stade où j'ai envie de découvrir, mais je demande à. Il va falloir me séduire quand même parce que je suis dans l'entre-deux, j'ai envie de connaître.
Ben, vous savez quoi, il faut écouter Europe 1 pour en savoir plus. Merci beaucoup, Clément
Lanoux.
Namasté,
namasté, Mélanie.
Merci, namasté, pour ce petit prélude bien souriant. C'est parti à présent. On va accueillir notre spécialiste du jour. C'est vous, Sophie Benabi. Bonjour.
Bonjour, Mélanie.
Alors, vous êtes praticienne en Ayurveda et autrice de Ayurveda, mon programme printemps-été qui est paru aux éditions Jouvence. Alors, comment vous avez découvert, vous, l'Ayurveda? Alors, j'imagine que c'était peut-être pas en Vendée avec Clément. Ça remonte à quand pour vous? Parce que c'est vrai que c'est une médecine qui est quand même relativement peu connue en France. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis d'origine kabyle et ma grand-mère nous soignait beaucoup avec les épices, les massages, les soins corporels. Et du coup, en fait, j'étais tombée sur un ouvrage qui parlait de l'Ayurveda et ça a tout de suite fait tilt. C'était un peu ma Madeleine de Proust à moi. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de creuser pour pouvoir voilà, soigner les autres avec cette médecine.
Alors, d'où elle vient justement cette médecine indienne? J'imagine que d'Inde, pas loin en tout cas, mais d'une région en particulier. Je crois exactement. En tout cas qu'elle est très, très, très ancienne.
Elle est très ancienne. Elle remonte à plus de 10 000 ans.
Wow.
Et elle est née en fait dans le nord de l'Inde, dans les montagnes de l'Himalaya. Voilà, et ça a été en fait le processus de méditation transcendantale, vous parlez de méditation tout à l'heure, pour en fait acquérir les notions de l'Ayurveda par ce qu'on appelle des rishis, des maîtres ascensionnés, et en fait qui ont reçu l'Ayurveda par des méditations justement. Et ensuite ça a été transmis à l'oral en fait.
Jusqu'en Vendée.
Jusqu'en Vendée, exactement.
C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Ayurveda? Je ne sais pas si je le dis bien, on dit Ayur ou Ayur?
Ayurveda.
Ayurveda, pour les novices comme nous, qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire science de la vie. Donc en fait, c'est une philosophie de vie qui part du principe qu'on fait partie inhérente de la nature, qu'on est composé des mêmes éléments de la nature et que pour pouvoir s'équilibrer, il faut en fait comprendre ces éléments qui nous composent, comprendre comment la nature fonctionne et se permettre en fait d'interagir en bonne intelligence avec elle et avec soi.
Alors c'est vrai que parmi ces médecines qui viennent d'Asie, j'ai l'impression qu'on connaît peut-être un peu plus la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'elles sont très différentes d'ailleurs ces deux médecines, que ce soit l'indienne ou la chinoise? Elles ont peut-être des points communs malgré tout?
En fait, on dit que la médecine chinoise s'est beaucoup inspirée de la médecine indienne. Et du coup, on retrouve des consonances effectivement dans la façon de traiter l'être, dans sa globalité, donc avec le corps, l'esprit, l'âme, le cœur. On a aussi cette question d'énergie chauffante, refroidissante qu'on retrouve aussi en Ayurveda. Après, il y a des lectures différentes. Donc, dans la composition des éléments, nous, on en a 5. Mmh. Le feu, l'air, la terre, l'espace et l'eau. Et du coup, eux, ce n'est pas du tout les mêmes éléments qu'ils vont avoir. Et par exemple, dans l'alimentation, on a toute une cartographie ayurvédique qui nous est vraiment spécifique et qui est différente, qu'on ne retrouve pas dans la médecine chinoise. Mais après, par exemple, eux, ils ont l'acupuncture, nous, on a les points marma. Et on a une lecture du corps qui est à peu près similaire avec des points qu'on peut retrouver qui sont à la fois différents et
Donc il y a quand même une philosophie parallèle entre les deux.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands principes? Là, vous en avez déjà édicté quelques-uns, mais il y a les points, on a parlé d'équilibre, c'est ça. Il y a une histoire, je crois, d'énergie vitale dans l'Ayurveda, c'est ça?
Exactement, ça s'appelle le prana. L'énergie vitale, donc tout ce qu'on fait en fait influence son énergie vitale à travers les cinq sens, ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, ce qu'on va manger, comment on va se toucher ou toucher les autres. Tout ça, ça influence cette énergie vitale qu'on appelle le qi en fait en médecine chinoise. Donc il y a aussi cette consonance-là.
Petite question de débutant qui n'a fait que deux cours. Si demain, donc j'ai compris la notion de bien-être, de rééquilibrage, si demain j'ai un cancer qui se développe ou quoi que ce soit, c'est les techniques qu'ils utilisent aussi ou vraiment pas du tout?
En Ayurveda. Pour soigner le cancer?
Par exemple, en Inde, j'imagine.
Oui, alors en fait, en Inde, il y a des cliniques par des médecins indiens qui sont formés aussi à l'Ayurveda. Et en fait, il y a ce qu'on appelle un panchakarma. Donc, c'est un peu une cure de régénération. On va vraiment traiter les toxines en profondeur et qui va venir en fait équilibrer l'être et lui redonner de la force vitale, notamment pour accompagner, par exemple, un traitement de cancer.
Parce qu'on est dans quelque chose de complémentaire, là. Ouais, on est d'accord, en Inde, il y a de la médecine traditionnelle.
En Inde, c'est différent parce que c'est vraiment reconnu comme une médecine à proprement parler. Et là-bas, en fait, ce sont des vrais médecins qui vont vraiment soigner les êtres. En France, ce n'est pas reconnu, donc on n'est pas médecin, on n'a pas cette formation médicale. Mais là-bas, oui, eux, ils peuvent le traiter.
D'ailleurs, je crois qu'en Ayurveda, on dit qu'on a tous en nous une énergie dominante. Il me semble. Moi, je suis quoi, par exemple? Comment on détermine ça?
Alors, en fait, on va le déterminer en sentant l'énergie de la personne, en regardant toute sa morphologie, donc son corps, en parlant avec elle aussi, parce qu'il y a plein de questions, par exemple, la manière dont vous allez digérer, dont vous allez dormir, le caractère que vous allez avoir.
Vous n'allez pas le déterminer juste en me regardant, là, c'est
ça? Alors, je pense qu'il y a pas mal de feu chez vous, et il y a de la terre aussi, qui ancre, en fait. Donc, j'aurais dit pitta kapha, comme ça, mais de prime abord, mais on peut se tromper parfois, parce que ça prend du temps, quand même, de connaître la constitution.
On va creuser la question. Merci à vous, Sophie Benabi. On va revenir avec vous dans quelques minutes pour ce décryptage sur la médecine traditionnelle indienne. On découvre l'Ayurveda ce matin, ou l'art d'équilibrer notre esprit et notre corps. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, ce matin on vous dit tout sur la médecine traditionnelle indienne et pour cela c'est une experte qui nous accompagne, c'est vous Sophie Benabi, vous êtes praticienne en Ayurveda et autrice du livre Ayurveda, mon programme printemps-été, paru aux éditions Jouvence. Bon, alors est-ce qu'on peut parler, quand on parle d'Ayurveda, de médecine douce ou de médecine complémentaire? On l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est reconnu en tant que tel?
Ce n'est pas reconnu comme médecine, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1982 et comme système de médecine réel. Donc en France, c'est vraiment un accompagnement qui va être complémentaire à la médecine allopathique, donc avec un soutien par des soins corporels, par l'équilibre du corps, par l'alimentation, par l'hygiène de vie, mais ça ne se supplémente pas en fait à l'accompagnement allopathique, jamais.
Puisqu'on parle quand même de santé, sur quel type de problème on pourrait agir grâce à l'Ayurveda ou prévenir? Ça va de, pour nous donner une idée, en tout cas, ça va de quoi à quoi?
Alors, très souvent, ça va être pour tout ce qui va être stress, émotionnel, les problèmes d'insomnie, la digestion aussi. L'insomnie, la digestion également, tout ce qui va être problème de peau aussi, psoriasis, eczéma, ça c'est des choses qui sont très demandées. Mais ça va être souvent aussi en prévention en fait, d'un déséquilibre à venir ou parce que dans la famille, il y a des petites fragilités qu'on ne veut pas avoir. Donc ça peut être du préventionnel et puis accompagner encore une fois et soutenir le corps.
Alors justement, on va prendre tout de suite en ligne un témoignage avec Amandine que nous avons récupéré au téléphone. Bonjour Amandine.
Namasté à toute l'équipe.
Oui,
j'ai trouvé que c'était une bonne introduction, non? Vous ne pensez pas, monsieur Lenou?
Tout à fait. Alors, pour vous, pour quelle raison vous êtes tournée vers l'Ayurveda, pardon? C'était pour quel type de soucis?
Alors, tout d'abord, c'était pour ma fille, parce que j'arrivais pas à trouver de réelle réponse, en fait, quant aux besoins de ma fille par rapport aux symptômes qu'elle avait de MIH. C'est une hypominéralisation des dents, mais c'est surtout aussi un problème de digestion. Donc, la médecine, en fait, allopathique ne me donnait pas de réponse. Elle me laissait un peu sur mes questionnements. Donc, je me suis intéressée en fait à me former directement auprès d'une école pour trouver un peu de réponses. Et je trouvais que l'Ayurveda me donnait toutes les réponses puisqu'on est des êtres complexes qui avons besoin de simplicité. Mm-hmm. Mais l'Ayurveda, voilà, nous apprend à nous servir de l'alimentation, de la respiration, du mouvement, à comprendre un petit peu mieux comment notre corps fonctionne. Et je trouve que c'est important de reprendre un petit peu le pouvoir de notre santé, et c'est ce que les formations de Sophie Benabi et les écoles qui nous entourent et les praticiens qui nous entourent nous enseignent.
Amandine, comment vous l'utilisez vous encore, enfin je veux dire au quotidien, j'imagine que là vous vous baignez un peu dedans, c'est-à-dire que même dans votre assiette vous mangez inspiré par cette médecine traditionnelle indienne?
Oui. Alors, l'alimentation ayurvédique n'est pas forcément indienne. Elle est on va dire qu'elle est adaptée à toute civilisation et à tout environnement qu'on a autour de nous. Donc du coup, elle nous donne une lecture assez simple en fait d'une vie un petit peu plus saine. Voilà, donc elle m'accompagne dans mon assiette, elle m'accompagne dans mes respirations, elle m'accompagne dans des situations comme celle-ci qui sont peut-être un petit peu stressantes. Elle m'accompagne dans la compréhension des émotions un petit peu échaudées de la vie. Elle m'accompagne dans beaucoup de situations, oui.
Bon, ben on sent bien les bienfaits que ça vous procure. Merci Amandine pour votre témoignage sur Europe 1. Je reviens vers vous Sophie Benabi. L'un des piliers de l'Ayurveda, c'est l'alimentation, on vient d'en parler. Vous avez, je crois, écrit un livre complet sur ce sujet. Expliquez-nous en fait, elle a dit la médecine ayurvédique, enfin la cuisine ayurvédique, elle n'est pas forcément indienne. Mais c'est quoi? C'est une histoire d'équilibre. Donc en fait, je vais faire avec des produits qui sont par exemple typiquement français. On peut faire de la cuisine ayurvédique, c'est ça?
Absolument. En fait, il y a souvent cet amalgame avec l'alimentation indienne parce qu'on va retrouver des consonances dans l'alimentation ayurvédique avec l'usage des épices, notamment pour booster la digestion, pour bien digérer, bien fabriquer des tissus et avoir une bonne énergie. Et en fait, l'Ayurveda a cette cartographie spécifique, notamment par l'usage des six saveurs. Donc des saveurs comme l'amertume, l'astringence, le sucré, le salé, l'acide et le piquant. Ça, ce sont les six saveurs. Et plus en fait on va mettre ces six saveurs dans l'assiette, mieux on va digérer et mieux on va optimiser en fait l'assimilation de son repas.
Un bon plat que je pourrais faire là en cette période d'été avec des produits qu'on trouve ici dans notre pays, ça pourrait être quoi pour dîner ce soir par exemple?
Pour l'été, alors on va aller sur des choses plutôt rafraîchissantes parce qu'il y a l'énergie chauffante et rafraîchissante que vont porter les aliments. Souvent on va se référer notamment à la couleur de l'aliment et à sa saveur aussi, plus c'est piquant acide, plus c'est chauffant forcément. Donc là par exemple, des courgettes à la vapeur avec de la menthe poivrée. Et vous allez faire des pâtes de riz à côté et une petite galette, par exemple des falafels à la menthe et à la coriandre.
Arrêtons là, j'ai faim, ça y est. Alors l'été justement est bientôt là. Vous dites, je crois aussi que les saisons ont un impact sur nos énergies et notre bien-être. La semaine prochaine, hein, donc c'est l'été, est-ce qu'on doit changer des choses justement? Alors, on doit aller moins vers le piquant, l'acide, c'est ça?
Exactement.
De quelle façon même, de point de vue philosophique, il faut aborder cette saison?
Alors tout ce qui va en fait réchauffer le corps et l'esprit est très mauvais pendant l'été puisque c'est une saison chauffante qui va augmenter le dosha pitta qui est composé de feu et d'eau. Donc tout ce qui va être irritabilité, colère, surmenage, contrôle, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas s'accorder des moments justement de repos où on va se balader, on fait des choses sans répondre à des objectifs, tout ça c'est très mauvais pour l'Ayurveda. Donc pareil pour l'alimentation, le fait en fait aussi de sortir par exemple au clair de lune, d'aller se balader plutôt quand il fait frais, ça permet en fait d'apaiser tout le système nerveux et de rééquilibrer l'organisme.
Alors vous parlez d'ailleurs d'épices, quelles épices on va utiliser le plus en Ayurveda? Il y a le trijata je crois,
oui.
De quoi s'agit-il? Je peux trouver ça chez moi là?
Alors vous pouvez le faire à la maison, c'est hyper facile, en fait c'est un mélange de trois épices. Donc on a de la cannelle, des clous de girofle et de la cardamome. Donc par exemple vous allez mettre 12 grammes de chaque. Mmh. Que vous allez en fait faire chauffer très légèrement dans une casserole et puis vous allez le moudre en fait dans un moulin à épices et ça va faire de la poudre. Et soit vous le prenez sous forme d'infusion, en fait ce qu'on appelle un dipana, donc ça va booster la digestion avant d'assimiler le repas pour que vous puissiez bien digérer ensuite. Ou alors vous pouvez le mettre dans vos plats, par exemple dans les currys, dans les dalles, dans les soupes, c'est super bon. Ou alors dans vos fruits ou encore dans vos compotes ou dans vos yaourts.
Bon, on a bien noté la recette. Merci à vous Sophie. On vous retrouve dans un très court instant pour continuer à découvrir tous les secrets de la médecine traditionnelle indienne. Un bon outil pour retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. On vous propose une petite initiation ce matin, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. On met la médecine traditionnelle indienne à l'honneur sur Europe 1 ce matin et on le fait grâce à notre invitée Sophie Benabi, praticienne en Ayurveda et autrice du livre Ayurveda, mon programme printemps-été, paru aux éditions Jouvence. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que juste en me regardant comme ça, vous le faites avec n'importe qui, vous pouvez déjà avoir une idée de quel est mon... Enfin, moi je suis Pitta Kapha. Qu'est-ce que ça veut dire en... Alors ça fait partie tout ça de la médecine traditionnelle indienne, mais qu'est-ce que ça dit de moi et comment vous avez deviner ça? On a eu pareil notre réalisateur qui a fait un test pour savoir quel, alors c'est quoi le nom,
quelle constitution, la
voilà,
prakriti.
Voilà, il est, vous en le regardant vous avez dit quelque chose, il a fait le test sur internet et vous aviez trouvé le,
oui,
bon, c'était Pitta, lui
Pittavata.
Pittavata. Alors comment vous avez trouvé ça et c'est quoi exactement, ça dit quoi?
Alors en fait donc c'est la constitution ayurvédique, c'est la constitution qui est composée des 5 éléments qu'on va garder toute sa vie et c'est ce qui va permettre en fait de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir s'équilibrer tout au long de sa vie justement en faisant des choix d'hygiène de vie, d'alimentation émotionnelle.
Quel choix je dois faire? Dites-moi vite.
Alors en Pitta Kapha, donc c'est une constitution qui est composée de feu, d'eau et de terre. Et en fait, moi je l'appelle le fonceur lent parce qu'il y a beaucoup d'ancrage en même temps beaucoup d'action. Et c'est une constitution qui doit faire attention par exemple à la zone de confort. Parce qu'une fois qu'ils acquièrent une zone de confort, c'est très compliqué pour eux d'en sortir et ça les déséquilibre.
Je vais y penser. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, on parlait tout à l'heure du changement de saison qui est important aussi dans cette Ayurveda. Il faut s'adapter aux saisons, on fait des changements justement pour que tout soit à l'équilibre. Et je crois que vous recommandez justement pour se rafraîchir, pour ne pas trop chauffer, de faire des bains de pieds. Mais de bains de quoi exactement et pour quelle raison?
Alors souvent, ça va être des bains de fleurs qu'on pourra mettre, donc par exemple de la rose, de la camomille, on peut mettre les fleurs qu'on a finalement près de chez soi, par exemple de la mauve, qui va venir en fait rafraîchir. Et pourquoi les bains de pieds? Parce que les pieds en Ayurveda, c'est connecté au mental. Donc dès qu'on masse les pieds, dès qu'on fait des bains de pieds, on vient
on
en quelque sorte...
On ressent tous les massages de pieds, c'est incroyable.
Mais totalement, on dit que c'est la cartographie du corps. Et c'est vraiment pour nous connecter à Manas, le mental. Donc quand vous faites ça, en fait quand vous faites un bain de pieds, vous venez rafraîchir votre mental. Donc quand vous êtes en colère, surmené, stressé, c'est irritable, ça va venir automatiquement vous rafraîchir et vous apaiser. C'est...
Vous avez évoqué la rose et je crois qu'effectivement elle est très utilisée en médecine ayurvédique. Quels sont ses bienfaits? On peut l'utiliser comment? Je crois que vous m'avez amené une petite boisson.
Oui,
justement.
Je vais apporter une petite boisson. Donc à base en fait de menthe poivrée, de sirop de rose et de cardamome, qui sont tous les trois en fait des ingrédients rafraîchissants. Donc c'est parfait pour l'été, pour un petit apéritif ou pour une petite boisson quand vous avez chaud, quand il fait très chaud là. Comme
c'est incroyable,
en ce moment.
C'est vrai que ça rafraîchit.
Ça rafraîchit énormément. Mmh. Et en fait, la rose, c'est une plante qui est, enfin une fleur qui est sattvique, c'est-à-dire qu'elle est lumineuse pour l'esprit. Donc elle va apaiser en fait le mental, redonner de la luminosité quand on est triste par exemple, ou encore une fois stressé. Ça va.
On peut en boire un peu plus.
C'est quelque chose qu'on peut apporter par exemple sur son lieu de travail pour s'apaiser avant une réunion ou quoi que ce soit. Et ça va venir vraiment rafraîchir le corps. Et en plus, c'est très bon pour tout ce qui va être hyperacidité, donc reflux gastrique, hyperacidité gastrique. Ça apaise le feu en fait intérieur. Et c'est très bon aussi pour l'hypertension.
Et en plus, c'est délicieux. Honnêtement, je vous invite à tester ça chez vous. L'Ayurveda, donc, c'est une médecine qui accorde une place importante à la spiritualité, on l'a compris, à la gestion des émotions, au bon équilibre émotionnel. En fait, c'est le principe d'un esprit sain dans un corps sain, hein, c'est ça, mais en version indienne, c'est ça?
Exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas de dissociation en Ayurveda entre le corps et l'esprit. Et pour soigner l'un, il faut passer par l'autre. Donc, quand on s'occupe. Enfin, en fait, dès qu'on va être stressé, qu'on va avoir une émotion, ça va venir automatiquement s'engrammer dans le corps. Et parfois, la lecture d'un déséquilibre en Ayurveda remonte aussi à l'émotionnel. Une fois qu'on débloque ça, ça vient se désengrammer en fait dans l'organisme.
La digestion aussi est très importante en médecine traditionnelle indienne. C'est quelque chose même de central, hein, je crois.
C'est la base.
Pourquoi? qu'est-ce qui vous intéresse justement?
Alors, c'est ce qu'on appelle Agni, donc le feu digestif. C'est la base de tout pour nous en Ayurveda parce que c'est ce qui va permettre en fait de créer la pleine santé, la vitalité, mais aussi les émotions. Quand on a des mauvaises émotions, ça peut être la traduction d'un mauvais feu digestif et la fabrication de ce qu'on appelle, nous, les dhatus, c'est-à-dire les tissus de l'organisme. Donc, en fait, ça va venir travailler sur le sang, sur la graisse, sur la lymphe, sur les os.
C'est incroyable. En fait, il y a des milliers d'années, on avait compris finalement que le microbiote, moi, je reviens à ce qu'on
en
parle. On parle aujourd'hui de ce deuxième cerveau et de tous les pouvoirs sur tous les organes, finalement.
Exactement.
Les Indiens l'avaient compris avant nous.
Ils l'avaient compris de cette manière-là, effectivement. En fait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on pourrait appeler Agni le microbiote, au final, cet équilibre intestinal.
Et comment on peut savoir que là-dedans, ça ne se passe pas bien, justement? Parce que parfois, il n'y a pas forcément de symptômes. Hein. Comment savoir si on a un équilibre digestif en médecine traditionnelle indienne?
Alors ça, on va le voir souvent le matin. La manière dont vous allez vous lever, c'est ce qui va aussi vous mettre la puce à l'oreille. Par exemple, si vous vous sentez lourd, léthargique le matin, si vous sentez que votre bouche est pâteuse, qu'il y a des dépôts aussi blanchâtres, ça c'est très courant, ou jaunâtres sur la langue quand vous tirez la langue, ça c'est le signe que votre digestion n'est pas performante et que vous digérez pas bien. Le fait aussi de beaucoup s'étirer le matin pour pouvoir se réveiller, d'avoir un mental brumeux ou encore d'avoir des douleurs articulaires.
D'accord. Et comment on soigne ça alors? Parce que j'imagine qu'il y a des détox en médecine traditionnelle indienne. Oui. Comment ça se passe? J'imagine que ça ne se fait pas en un jour non plus, cette histoire.
Ah non, du tout. Ça peut être assez long en fonction de la durée de vos toxines. En fait, ça va être beaucoup par... en France, on va surtout utiliser l'alimentation, les plantes aussi, les épices qu'on va utiliser pour pouvoir rebooster le feu digestif. Tout à l'heure, on parlait du trijata. Ça va être des petits mélanges comme ça, par exemple sous forme d'infusion ou qu'on va mettre dans les plats. C'est une façon toute simple, en fait, de redonner de la force à son feu. Ça va permettre de mieux brûler et donc d'avoir moins de toxines.
Et Clément disait tout à l'heure, on va terminer par ça, que le yoga, c'était la petite sœur ou l'inverse enfin de l'Ayurveda, c'est vrai, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, elles sont interdépendantes l'une de l'autre. D'ailleurs, il y a même des yogas ayurvédiques pour pouvoir équilibrer les émotions, équilibrer les doshas. Et elles font partie des Védas toutes les deux, donc elles ont vraiment la même source.
Très bien, merci beaucoup Sophie Benhabi. Je vous aurais gardé bien une heure de plus, hein, c'est passionnant. Merci pour cet éclairage très complet sur la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous êtes curieux de mieux connaître les médecines asiatiques au sens large, j'en profite pour vous signaler une exposition à ne pas manquer. C'est Médecine d'Asie, c'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 18 septembre. Voilà, dans un instant, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Cécile Coumeau a testé pour nous un atelier initiation à l'apiculture, ça a l'air très chouette et elle va nous raconter. Et puis on va s'échapper aussi un peu grâce à Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard. On va visiter ensemble la ville de Hambourg. Donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. On va écouter maintenant toutes les bonnes choses que vont nous raconter les bienfaiteurs d'Europe 1. Bonjour, rebonjour, Gavin Clément-Terruiz. On va partir où tout à l'heure? Pas à Pouffetan, ça c'est dimanche,
non,
on a compris.
On va aller un peu plus au nord encore. On va aller en Allemagne et on va aller découvrir la ville d'Hambourg.
Bon, très bien. Alors le tourisme, ça sera dans un instant parce qu'on va commencer avec Cécile Coumeau. Bonjour Cécile.
Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous nous amenez dans une activité qui permet de se cultiver, de profiter de la nature, de mettre nos papillons en éveil, tout ça. En fait, vous avez participé à un atelier d'initiation à l'apiculture.
Exactement. Et comme le nombre de ruches a fait un bond extraordinaire ces dernières années en ville, eh ben, tout le monde peut trouver un atelier apiculture proche de chez lui. Alors je précise tout de suite que les abeilles se trouvent très bien en ville, hein, notamment parce qu'il y a moins de pesticides qu'à la campagne. Je préférais quand même le préciser tout de suite.
C'est vrai, c'est une bonne précision. Cécile, cette mise au point, elle est faite maintenant. C'est quoi le but en fait, d'un atelier apiculture?
Alors, c'est d'abord quand même de nous sensibiliser au rôle central des abeilles dans la biodiversité. Elles assurent quand même la quasi-totalité de la pollinisation, c'est-à-dire que grâce à elles, les plantes et les arbres feuilletés se renouvellent. Alors, en ce qui me concerne, je suis allée un samedi matin découvrir les ruches de la Villette au nord de Paris.
La Villette, sérieux? Mais il y a plus de béton que de fleurs là-bas, non?
Il y en a pas mal, effectivement, mais il y a aussi un super petit jardin qui regorge de plantes mellifères, c'est-à-dire c'est des plantes qui sécrètent du nectar, donc dont raffolent les abeilles. Hein.
Bon, après la petite balade, j'ai l'impression qu'il vous a bien plu dans le jardin. Ouais. C'était quoi le programme exactement dans l'atelier?
Alors d'abord, Pierre, l'apiculteur, il a commencé par nous dévoiler les secrets de l'organisation d'une colonie d'abeilles. Et c'est absolument dingue. Alors je ne vais pas tout vous révéler évidemment dans ma chronique, mais les quelques dizaines de milliers d'abeilles, je dis bien une dizaine de milliers d'abeilles qui vivent dans une ruche, sont des vraies guerrières. Bon, il y a la reine évidemment qui pond quand même 2000 par jour.
Voilà.
Quant aux ouvrières, eh bien, elles bossent en permanence, elles portent bien leur nom, elles occupent différentes fonctions. Elles sont nettoyeuses, puis nourrices, magasinières, c'est-à-dire qu'elles récupèrent le nectar récolté par les butineuses, etc. Elles assurent évidemment beaucoup de fonctions. Les mâles, eux, c'est plus cool, comme nous l'explique Pierre.
Ils protègent pas la ruche, ils butinent pas. Ils sont même incapables de se nourrir tout seuls. Donc c'est les abeilles ouvrières qui vont devoir les nourrir. Les mâles, leur seule activité, la journée, ça va être de sortir dehors et de monter dans le ciel. Et ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle une congrégation de mâles. Donc c'est une espèce de boys club dans le ciel. Où en gros, ils forment un nuage et tous les jours, ils y vont. En fait, ils attendent qu'il y ait des reines vierges qui passent. Et là, en gros, les mâles, ils vont féconder les reines qui passent. Elles viennent naître, elles montent dans le ciel, elles savent où il faut aller. Elle se retrouve dans l'espèce de gros nuage de mâles. Et là, elle va se faire féconder 15 fois d'affilée.
Wow, je ne verrai plus jamais les abeilles mâles de la même façon. Alors ensuite, vous êtes allé voir de plus près les abeilles, j'imagine. Hein.
Oui, on s'est équipé, vous savez, de ces espèces de combinaisons de cosmonautes pour éviter les piqûres. Alors cela dit, même si les abeilles, faut vraiment les embêter pour qu'elles vous piquent, parce qu'elles meurent après avoir planté leurs dards. Mmh. Donc elles hésitent quand même. Hein. Alors, Pierre a soulevé le toit d'une ruche. Là, ça grouille de monde, évidemment. Pour éviter quand même qu'elles s'énervent trop, il utilise son enfumoir parce qu'en fait la fumée les empêche de communiquer entre elles. Et c'est parti pour l'observation.
Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a la chance de tomber sur pile là où la reine a pondu et donc il y a des abeilles qui naissent. Donc ici, vous allez voir, il y a une alvéole, on voit une petite tête qui veut sortir.
Ah oui!
Et voilà.
Ah, trop bien!
Et du coup, vous voyez, elle naît avec le taille adulte, mais elle a plein de petits poils. Elle est poilue.
C'est vrai qu'on la distingue pas tellement quand même des adultes.
Et là, son premier boulot, je pense qu'elle a faim, donc elle va aller manger. Mais après, son premier travail, ça va être de nettoyer les alvéoles qui sont ici.
Voilà. Bon, alors passons maintenant au miel, c'est quand même le but du jeu. Hein. Ce produit bien connu pour ses vertus anti-inflammatoires. Eh bien, d'où vient-il précisément? Vous allez voir.
Le nectar, c'est beaucoup d'eau et très peu de sucre. La ruche dedans, c'est 35 degrés. Et donc, ça se conserve très mal. Il faut bien comprendre qu'en gros, une ruche, ce qu'elle veut, elle, c'est que le nectar, là, il puisse être stocké pour être mangé des mois après. Les mois d'hiver où il n'y a plus de fleurs dehors. Donc, il y a des abeilles, leur boulot, ça va être ventileuse. Elles vont battre des ailes et ça va faire un courant d'air. Et une fois que le nectar il a été séché, il devient tout visqueux. Ça s'appelle du miel. Vous voyez, il y a un peu de liquide dedans, les alvéoles, là. Ouais. Ça brille un peu.
Ouais.
C'est du miel, ça?
Ça, en gros, c'est du nectar, ouais. Mais qui n'est pas encore assez sec pour être fermé.
Puis ça luit. Ouais, c'est impressionnant. Ça grouille de partout, c'est magnifique.
Je le confirme, c'est magnifique. On était tous fascinés par ces alvéoles dégoulinantes d'or jaune. Mais au bourdonnement des abeilles, écoutez, voilà, on a su là qu'elles commençaient à s'énerver un petit peu. Voilà, bon. Il était temps de les laisser tranquilles.
Pour terminer rapidement, Cécile, le miel de la Villette, vous l'avez goûté ou pas?
Ouais, il est super bon, super frais. Et on a même pu, à la fin de l'atelier, déguster 8 miels différents, dont certains très originaux, comme le miel de carotte.
Oh, Incroyable. Écoutez, on va essayer de tester ça. Merci beaucoup, Cécile. On va changer de bienfaiteur à présent et on va s'inspirer peut-être pour nos prochaines vacances avec Gavin Clémenté-Ruiz du guide du routard.
Du guide du routard.
Voilà, on file en Allemagne pour un city trip à Hambourg. Marrant, Hambourg pour un petit week-end. J'aurais pas pensé du tout, honnêtement. Hein.
Bah ouais,
c'est facile d'accès.
Ah ouais, c'est facile d'accès. Ça change un peu. Alors, si on veut y aller de façon écolo, 8 à 9 heures de train depuis la France. Bon, voilà, c'est pour être réglo côté empreinte carbone. Sinon, il y a l'avion, bien sûr. Il y a des vols depuis Paris, de Nice aussi, plusieurs fois par jour. Ça dure 1h30 à 2h de vol.
Ça va, c'est rapide. Mais Hambourg, c'est vrai qu'on connaît mal cette ville. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bah ouais, c'est pour ça, c'est intéressant. C'est moins connu que Berlin, mais c'est tout aussi sympa. Hambourg, c'est la deuxième ville, deuxième agglomération allemande après Berlin. Donc, c'est tout au nord de l'Allemagne. C'est moins de 2 millions d'habitants. C'est la ville de naissance de Johannes Brahms, de Karl Lagerfeld, d'Angela Merkel.
Ah oui.
Donc, vous voyez, des notoires allemands. Et c'est une ville qui bouge, hein, qui peut plaire à tout le monde, aussi bien les fans de shopping que d'architecture et même les fêtards. Alors, et j'ai aussi noté, côté nature, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un lac intérieur, le lac Alster, qui a été créé au XIIIe siècle. 14% d'espace vert, c'est pas mal. 64 km de canaux et 2500 ponts, c'est pas mal.
Ça attendez, laisse du... un lac comme ça en pleine ville.
Exactement. Et donc, vraiment, si vous avez envie de vous promener, vous allez respirer, ça va faire vraiment
c'est
du
génial.
Bien.
Ouais. Il y a d'autres sites incontournables à Hambourg.
Ouais. Alors, si vous aimez l'art, il y a le musée des Beaux-Arts, la Kunsthalle, il faut aller absolument le voir. Il y a tous les chefs-d'œuvre du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle.
Vous parlez bien allemand, vous. Hein
oui, un petit peu. Ouais. Holbein, Ruisdael, Fragonard. Il y a une belle expo à venir en fin d'année sur Caspar David Friedrich. C'est le chantre du romantisme, so romantisch, comme diraient les Allemands. Il y a aussi un endroit très surprenant, c'est le marché aux poissons. Ouais. On change des abeilles. Il existe depuis 1703. Et chaque matin, il y a plus de 70 000 personnes qui viennent voir le poisson arriver. On achète, ça crie fort, on est à la criée, bien sûr. On achète son poisson, ses légumes et on y danse aussi, c'est assez original.
On peut danser ailleurs qu'au marché d'ailleurs, au marché aux poissons, rassurez-moi.
Ouais, bien sûr, c'est vraiment pour les fêtards, il y a tout ce qu'il faut. Le quartier incontournable à Hambourg, c'est le quartier rouge, le Reeperbahn, à visiter la nuit pour, bien sûr, son ambiance, c'est assez vif. Ça change un peu du côté chic de la ville, ça contraste, c'est ça qui me plaît bien. C'est aussi là que sont nés les Beatles.
Ah
et ouais,
bon
c'est là qu'ils se sont produits au tout début. Et
ah
ouais,
bon
il y a un itinéraire, incroyable, si vous souhaitez, pour voir tous les endroits où ils ont joué au début, et c'est là qu'ils se sont formés.
Bon, vous avez oublié un point important, enfin vous ne l'avez pas oublié, mais on va y passer, vous savez que c'est important pour nous ici. Est-ce qu'on mange bien là-bas? On mange quoi?
Ah, ça je vous reconnais, Mélanie. Oui, bien sûr, on est à Hambourg, on n'est pas loin de l'eau, il y a des restaurants de poissons,
voilà.
Bien sûr. Alors, la spécialité, c'est les Fischbrötchen. Ce sont des petits sandwichs au poisson qu'on
d'accord
mange comme ça, sur le pouce, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Le Rundstück warm aussi, qui n'est autre que l'ancêtre du fameux, on est à Hambourg, hamburger.
Oh,
eh ouais,
oui,
c'était un petit steak dans un pain brioché et le hamburger vient de là. Et ce sont tous les Européens qui ont migré aux États-Unis qui ont importé avec eux cette spécialité du 19e siècle.
Génial,
pas mal,
mais
non ?
Oui, bien sûr. Alors peut-être une dernière adresse pour dormir, tiens.
Ah ouais, alors ça, j'en ai une qui est super. Ça s'appelle le Cap San Diego. C'est quoi ? C'est le nom d'un ancien bateau de transport de marchandises qui a été réaménagé avec de très très belles cabines, très cosy. Tout ça avec vue sur l'Elbe. On est en plein cœur d'Hambourg et on a une vraie cabine de marin joliment décoré, un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup, ça, c'est très joli, c'est le Cap San Diego à Hambourg.
Bon, parfait, génial, hein, de l'art, de l'air, des bateaux, du poisson, c'est tout bon, adjugé vendu, Gavin, on part à Hambourg. Mais avant
super
cela, je rappelle encore une fois qu'on vous retrouve dimanche à 11h dans Balade en France sur Europe 1 aux côtés de William Lémergie. Merci Gavin,
merci
beaucoup Cécile Coumont, on se retrouve très prochainement dans l'émission. Merci à vous également, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été à l'écoute de Bienfait pour vous aujourd'hui. On remettra le couvert demain et Julia Vignali sera de retour à mes côtés. Alors demain, je vous l'annonce, on va s'intéresser à un trouble qui touche près de 2 millions d'enfants et d'adultes en France, le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comment mieux aider, notamment en classe, les enfants concernés? On va faire le point demain, mais à présent, je vais laisser la place à l'info sur Europe 1. Il est l'heure, hein, Romain Desarbes vient d'arriver en studio. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie.
Europe
bonjour
1 Midi arrive également. Quel est le programme?
Dans Europe 1 Midi, on va parler du plan ruralité d'Elisabeth Borne. Il va être annoncé dans une demi-heure. Est-ce que les Français qui habitent à la campagne, tiens, ne seraient pas les grands oubliés de ce gouvernement et des précédents d'ailleurs. On va en parler. 01 80 20 39 21. Vous appelez pour témoigner et puis pour commenter également. On va parler de la colère contre les prix trop élevés des billets de train cet été. Idem, on témoigne, on appelle le standard d'Europe 1 Midi. Et puis Johnny Hallyday aurait eu 80 ans aujourd'hui. C'est l'occasion surtout d'écouter
ah, oui,
du Johnny Hallyday et puis de lui rendre hommage. Et puis on sera avec Thibaut Geffrotin qui a écrit plusieurs livres sur Johnny Hallyday. Voilà le programme.
Merci. Merci beaucoup Romain, à tout de suite et bonne journée sur Europe 1.
À tout de suite.